sectes et des mouvements hérétiques. Je pourrais vous parler des fraticelles, des kantéens, des adamites, des kabbalistes, des magariens, des bogomiles, des frères du libre-esprit, des eukites, des soufis. Je pourrais vous entretenir des lucifériens même. Mais de la schola gnosticos, je ne suis pas certain de pouvoir ou de devoir vous en parler. En disant cela, toutefois, vous confirmez que la chose existe. Le dominicain ne répondit pas, mais son silence était acquiescement. Soit. Je comprends donc que vous ne voulez pas me parler de cette chose dont, par respect pour vous seulement, je ne dirai plus le nom. Néanmoins, j'ai besoin, moi, d'en savoir davantage. Ne pourriez-vous pas me diriger vers quelque autre érudit qui saurait, lui, m'en dire un peu plus ? Le maître Eckhart ferma les yeux et secoua la tête. « Je vous en conjure, Andreas. Oubliez tout cela. Je ne sais pas ce qui motive vos recherches, mais il ne peut en sortir rien de bon. Vous pénétrez dans un domaine qu'il ne faut pas d'être visité, car on ne peut que s'y égarer. » Cette fois, l'apothicaire ne put masquer son agacement. « Vous savez bien que je ne suis pas homme à me laisser dire ce que je peux ou dois connaître, et qu'il n'est aucun domaine que je m'interdise de visiter. J'ai besoin de savoir. » Le dominicain fit une grimace. « De savoir, oui. Oui, je sais cela de vous. Vous êtes un homme de savoir, Andreas, et votre soif de connaissance vous honore comme elle pourrait vous perdre. Et en cela, vous n'êtes pas si différent des gnostiques eux-mêmes, justement, qui, révoltés contre le mauvais créateur à l'instar d'Ève, suivent le serpent pour goûter aux fruits de la connaissance, laquelle, dois-je vous le rappeler, se dit gnosis dans la langue de Socrate. Allons, répondez-moi, Eckhart, cela devient ridicule. » Le regard du dominicain fit des allers-retours entre celui d'Andreas et de son apprenti. Il tergiversa longuement, et son corps tout entier trahissait son irrésolution. Puis, dans un soupir d'abandon, il répondit enfin. « Il y a un homme à Artenay. » « Son nom ?» demanda l'apothicaire sans embâge. « Arnaud de Roulet. Et qui est cet homme ?»« C'est un ancien moine franciscain. »« Ancien ?» Il a été défroqué. Chapitre 48. Comme elle était blessée, et grièvement, Alice ne se coucha point ce soir-là à l'étage dans la chambre de ses parents, mais resta seule en bas sur une couche de fortune, installée près de la cheminée, ainsi que l'avait prescrit le médecin qui était venu la soigner, non sans avoir adressé à Morin Nouet des regards remplis de reproches entendus. Harcelée par la douleur, elle ne put trouver le sommeil de toute la soirée, et pleura beaucoup. Encore que ses larmes pussent avoir coulé davantage sous les effets du sentiment d'injustice et de peine que sous ceux de ses moultes blessures. La nuit est tombée depuis longtemps quand soudain nous voyons la jeune fille se redresser sur sa couche, les yeux grands ouverts, comme saisie d'une rage subite, d'un brusque transport, comme possédée par un démon, et frénétique et exaltée. D'ailleurs, son visage tuméfié est si abîmé qu'on dirait une sorcière, dans l'image que se font les gens de ces vilaines femmes. Péniblement elle se lève, le sang coule encore à son flanc. Un bras tremblant se saisit d'une torche imbibée d'huile, la plonge dans l'âtre, jusqu'à ce qu'elle s'allume. Alice se retourne. La flamme orange à son côté colore sa figure et y dessine de sinistres ombres. Le regard fixe, elle avance pitoyablement à travers la pièce, et boitant et râlant, puisant dans son ire une force nouvelle, inattendue. Près de l'entrée, elle attrape son manteau de laine qu'elle enfile. De sa main libre, elle ouvre la porte. Une bise glaciale s'engouffre dans la maison et soulève sa chevelure châtaine. Les mèches volent autour d'elle et lui font une obscure auréole. Le front baissé comme un taureau avant la charge, de ses yeux verts écarquillés, elle pose sur cette salle un regard qui a quelque chose de définitif. Au sol, les derniers brins de paille de l'hiver. Alice se penche. Le bâton enflammé lentement s'approche du parterre, lequel d'un seul coup s'embrase. Les flammèches se propagent rapidement. Bientôt, la pièce entière est envahie par un océan ardent et doré. Le visage d'Alice n'a pas changé. Figée, elle observe un instant son forfait,